l'Iran a rejeté les accusations israéliennes selon lesquelles il aurait été impliqué dans une attaque contre un pétrolier appartenant au régime israélien au large des côtes d'Oman jeudi soir.
Le régime sioniste doit cesser de lancer de telles accusations infondées. Ce n'est pas la première fois que le régime occupant Rots porte de telles accusations contre la République islamique d'Iran. Là où ce régime est présent, l'insécurité, la violence et le terrorisme sont aussi présents.
Le porte-parole de la diplomatie iranienne a ajouté que les accusations israéliennes sont totalement sans fondement. Il a noté que le régime est la cause première de l'insécurité dans la région et que les acteurs régionaux soutenant Israël sont également responsables de cette insécurité. Les États-Unis ont déclaré vendredi que l'attaque contre le navire appartenant à Israël avait été menée par un drone. Washington et Tel Aviv ont immédiatement blâmé l'Iran pour l'incident sans fournir aucune preuve. Mais des sources de la résistance ont déclaré au réseau d'information iranien El Alam que l'attaque était en représailles à un récent raid aérien israélien meurtrier sur un aéroport de Qusair à l'ouest de la Syrie.
Soulignant que le contenu de l'accord nucléaire est prêt, le ministre iranien des Affaires étrangères a déclaré « Cela a été dit à plusieurs reprises et j'ai également dit au Parlement dans mon rapport que la relance du PGAC n'a besoin que la volonté des pays occidentaux pour adopter une attitude réaliste à son égard. » Dans une interview exclusive en marge de la réunion du cabinet d'aujourd'hui, répondant à une question sur le commentaire du ministre allemand des Affaires étrangères qui a exhorté Téhéran et Washington à revenir au PGAC, Mohammad Javad Zarif a réitéré que l'Occident et à sa tête les États-Unis doivent explicitement croire et accepter l'idée qu'ils étaient les seuls à avoir violé le plan d'action global conjoint et s'en sont retirés, mais maintenant les portes leur sont ouvertes pour y revenir facilement. Ce qui est clair, c'est que si les États-Unis et les pays occidentaux essaient d'obtenir plus que ce qu'ils ont obtenu lors des négociations initiales du PGAC, ils n'y arriveront certainement pas, a-t-il souligné. Nous avons vaincu les Américains dans l'affaire du PGAC, malgré le fait que les États-Unis aient fait pression sur le peuple iranien. Les Américains ont échoué 3 fois pendant 2 mois aux Nations Unies, ce qui montre que notre peuple a prouvé au monde que c'est Washington qui crée des problèmes dans le monde et doit changer son comportement aujourd'hui, a souligné Zarif.
Moi, je pense que ce qu'il faut retenir, c'est que l'Iran reste sur sa position initiale, à savoir qu'il faut revenir déjà à l'accord tel qu'il était au préalable, avant la violation par les États-Unis. Et bien sûr, pour pouvoir revenir, il faut que les États-Unis réalisent un certain nombre de conditions, à savoir l'annulation des sanctions qui ont été lancées par Washington, justement dans le cadre de la violation de l'accord de Vienne. Et plus que cela, l'Iran a aussi rappelé qu'il faudra un certain temps pour vérifier le fait que les conditions aient été bien remplies. Parce qu'on peut annoncer que les sanctions ont été levées, mais techniquement, il peut toujours y avoir des instruments qui font que les sanctions continuent d'être appliquées. Donc je pense que la position iranienne sur ce point, elle est tout à fait logique. Et effectivement, si aujourd'hui l'Occident espère pouvoir obtenir plus de concessions de la part de l'Iran, sachant que, encore une fois, que l'Iran se trouve dans une position juste et raisonnable, sachant que ce n'est pas lui qui a violé unilatéralement cet accord, c'est pas lui qui est sorti de façon unilatérale de cet accord. Après, l'Iran effectivement a pris les mesures qu'il a jugées nécessaires compte tenu du fait que l'accord n'était plus respecté. Mais encore une fois, je pense que c'est tout à fait. Je pense que si les Occidentaux, en tout cas les élites occidentales, espèrent que l'Iran va fléchir et donner plus de concessions que cela a été mentionné au départ. Je pense que les Occidentaux se trompent complètement sur cette ligne. L'Iran a bel et bien dit quelles sont les conditions du retour dans cet accord. Encore une fois, c'est aux Américains de faire le nécessaire pour pouvoir faire en sorte que l'accord soit de nouveau respecté. Les conditions ont été énumérées. Maintenant, c'est aux Américains de décider s'ils sont prêts à cela ou pas. En tout cas, ça rentre effectivement dans leurs intérêts à eux. Donc, ce serait d'une façon, logiquement parlant, ce serait logique qu'ils le font. Mais effectivement, les États-Unis, il faut bien comprendre une chose, qu'il y a aussi l'aspect de propagande qui rentre en jeu, c'est-à-dire que pour eux, le fait que s'ils acceptent les conditions iraniennes, sachant bien encore une fois que les conditions iraniennes sont tout à fait logiques et justifiées, les États-Unis voient ça comme une défaite, une nouvelle défaite sur la scène internationale, à l'heure où ils sont déjà en train de perdre de l'influence à différents endroits du monde. C'est pour ça qu'ils essaient de retarder au maximum et de pousser l'Iran à accepter des conditions, si on peut dire intermédiaires, pour pouvoir revenir à l'accord. L'Iran a dit clairement non. L'Iran a dit qu'il n'y a pas de décision intermédiaire à prendre. Les États-Unis doivent, dans le cadre de la violation qu'ils ont réalisée, ils doivent réaliser les conditions de la partie iranienne, qui sont tout à fait logiques, encore une fois. Et après cela, l'accord peut être de nouveau appliqué et l'Iran est prêt à respecter les clauses qui le concernent lui dans le cadre de cet accord. Je pense que c'est tout à fait logique. Maintenant, est-ce que les Américains seront capables de surmonter leur arrogance extrême et de revenir à un accord qui puisse tenir compte des intérêts de toutes les parties, comme cela a été le cas lors de sa signature au départ de l'accord de Vienne? Ça, c'est une question qui persiste. Mais moi, je pense que ce qu'il faut retenir principalement, c'est la position iranienne qui est restée inflexible et qui reste totalement logique et justifiée, je pense. Donc, je pense que c'est ça qu'il faut retenir. Alors que, en ce qui concerne la partie occidentale, c'est à eux de voir s'ils veulent encore retarder ou s'ils veulent carrément abandonner la re-signature de cet accord. Ça le regarde eux, mais je pense que le principal à retenir, c'est la capacité de résistance iranienne dans ce dossier.
La cérémonie d'approbation du président élu Ebrahim Raïsi se tiendra le mardi 3 août en présence du guide suprême de la révolution islamique, l'ayatollah Ali Khamenei. Le ministre iranien de l'Intérieur, Abdolreza Rahmani Fazli, présentera un rapport sur le processus de la 13e élection présidentielle tenue le 18 juin 2021. Le président élu Ebrahim Raisi et le guide suprême de la révolution islamique d'Iran prononcera ensuite leur discours solennel. La cérémonie officielle d'investiture du président élu Ebrahim Raisi se tiendra au Parlement iranien où il prêtera serment le 5 août.
Le président iranien a défendu le bilan des activités de son gouvernement affirmant que l'unité nationale devrait être la priorité pour tous. Hassan Rouhani a déclaré dimanche, lors de la dernière réunion du 12e cabinet, un objectif très élevé que nous devons tous poursuivre est l'unité nationale. Le 7e président iranien a affirmé, dans le passé, nous avons parlé au peuple et annoncé que rien n'était contre la réalité et nous avons dit au peuple ce qui était réel. Bien sûr, nous avons dit aux gens qu'une partie de la vérité, et je ne pense pas que nous puissions leur dire, parce que je n'ai pas trouvé cela utile, a ajouté Rouhani. Le 7e président iranien a poursuivi en soulignant un objectif très noble que nous devons tous poursuivre, est l'unité nationale. Nous avons toléré de nombreux problèmes afin de maintenir la cohésion nationale et l'unité nationale dans notre pays, a souligné le président. Il a qualifié son premier mandat de période d'interaction avec le monde lorsque son gouvernement était assez confiant qu'il était l'adversaire des grandes puissances dans les négociations. Le président a ajouté « Nous n'avons pas négocié pour gagner uniquement en politique. Bien sûr, nous avons également gagné en politique. Nous avons vu ses effets sur l'économie. Bien sûr, c'était notre souhait. » Le rougissement de l'eau du lac Urmia en été a doublé sa beauté dans le nord-ouest de l'Iran. Suite à l'augmentation de la température et de l'évaporation de l'eau en été, la concentration en sel du lac d'Urmia a augmenté et les conditions se sont améliorées pour la multiplication et l'activité des bactéries et algues halophiles et ces bactéries peuvent transformer la couleur d'une eau extrêmement salée en rose ou en rouge. Avec le changement de couleur du lac d'Urmiya, de nombreuses personnes de la province de l'Azerbaïdjan occidental et d'autres régions se sont mis à visiter le lac d'Urmiya. En tant que deuxième lac d'eau salée au monde, le lac d'Urmiya est l'un des pôles touristiques de la province de l'Azerbaïdjan occidental.
La distance entre le terminal de Jask et le terminal pétrolier de l'île de Kharg est de 945 km. Compte tenu de cette distance et du coût du carburant et de la location d'un pétrolier de 2 millions de barils pendant 5 jours, l'usage du terminal pétrolier de Jask pour exporter le pétrole brut iranien réduise les coûts de moins 300 000 $, a déclaré le directeur du terminal pétrolier de Jask. Reza Dehkordi a déclaré « La distance entre le terminal pétrolier de Jask et l'île de Kharg est d'environ 945 km. Ce trajet aller-retour prend 5 jours, donc l'utilisation du terminal pétrolier de Jask pour l'exportation peut économiser au moins 300 000 $ dans le prix de la location des superpétroliers, ce qui créera un avantage concurrentiel pour l'acheteur du pétrole brut iranien. Ce sera donc une cargaison plus rapide et moins chère, carburant plus location de navire, prime d'assurance et coûts portuaires, et ce fait est dans l'intérêt des acheteurs de pétrole iranien. Le coût de la location du pétrolier est de 50 000 à 70 000 $ par jour, selon la taille des tankers. Selon Dehkordi, Jask peut également jouer à l'avenir un rôle majeur dans le secteur du bunkering ainsi que dans la logistique, la maintenance et la réparation des navires. L'Iran a toujours été une autoroute pour le transport de l'énergie et le pétrole dans le monde en raison de son emplacement dans une région stratégique du Moyen-Orient. Et si nous voulons augmenter notre puissance dans la région et dans le monde, nous devons transformer nos capacités géopolitiques potentielles en capacités réelles, a ajouté ce responsable iranien.
La proposition faite le 16 juillet par le consul général iranien au Pakistan, selon laquelle son pays pourrait servir d'intermédiaire pour le commerce russo-pakistanais, est d'une extrême importance car elle témoigne d'une conscience du rôle de la République islamique d'Iran dans l'environnement géoéconomique de l'Eurasie. L'environnement géoéconomique de l'Eurasie évolue rapidement à la lumière de plusieurs événements interconnectés survenus au cours de l'année écoulée. L'accord conclu en février pour la construction d'une voie ferrée trilatérale entre le Pakistan, l'Afghanistan et l'Ouzbékistan a remis en question la viabilité stratégique de la branche orientale du corridor de transport nord-sud qui relie le port iranien de Chabahar à l'Afghanistan et aux républiques d'Asie centrale. Kaboul a enfoncé un nouveau clou dans le cercueil de ce projet le mois dernier lors de la réunion trilatérale virtuelle des ministres des Affaires étrangères aux côtés des plus hauts diplomates de Pékin et d'Islamabad, en s'engageant à s'appuyer sur le projet phare de l'initiative Belt and Road Initiative, à savoir le corridor économique Chine-Pakistan. L'Express Tribune a rapporté que M. Mohammad Reza Nazeri a déclaré le 16 juillet, alors qu'il s'exprimait lors de la première session de la réunion de facilitation des affaires entre le Pakistan et l'Iran, que l'Iran est un bénéficiaire de ce corridor et peut faciliter le commerce du Pakistan avec l'Asie centrale et la Russie. Guidé par cette approche flexible de l'environnement géoéconomique en rapide évolution de l'Eurasie, l'Iran peut, de manière réaliste, conserver son importance géoéconomique, même si la fonction initiale de connectivité russo-indienne a été réduite en raison des récents développements liés à Pakafou et du réalignement général de l'Inde sur l'Occident, notamment par son respect du régime de sanctions unilatérales anti-iraniennes des États-Unis.